Que le Seigneur soit béni pour sa présence. Quel privilège et quel bonheur nous avons d'être ensemble et de pouvoir librement jouir de la bénédiction qui découle de celui qui un jour s'est révélé à nos cœurs. Voilà, je voudrais vous saluer avec mon épouse. Nous vous saluons dans le beau nom de Jésus et nous vous disons la joie eh bien, que nous avons de partager ce culte avec vous. Voilà, est-ce qu'il est besoin de vous dire que nous vous portons dans nos cœurs et que régulièrement, je peux même dire chaque jour, vous êtes dans nos prières. D'une manière définitive, l'église d'Aubagne occupera dans nos cœurs une place privilégiée. Et les kilomètres ni les années qui passent ne nous empêchent de nous sentir vraiment dans cette communion fraternelle. Voilà, vous vous en doutez, mais je vous le dis d'une manière explicite, je prends régulièrement des nouvelles de l'église d'Aubagne. Et je me réjouis d'avoir de bonnes nouvelles, que le Seigneur soit béni. Voilà, nous prions pour vous, nous prions pour votre pasteur Stéphane Brion, son épouse Anne. Nous prions pour que le Seigneur renouvelle eh bien, leur force et l'onction du Saint-Esprit sur leur vie. Alléluia. Hein. Et nous prions pour la ville d'Aubagne, le pays d'Aubagne. Il y a ici un champ missionnaire, des milliers d'hommes, de femmes qui sont dans l'obscurité, les ténèbres, la misère, avec dans leur esprit des pensées suicidaires, une désespérance sans nom. Et nous croyons et nous voulons le proclamer avec une assurance toujours fortifiée. Nous croyons que Jésus seul a le pouvoir de sortir de son marasme l'homme perdu et de l'amener à la vie, à l'espérance et au salut. Que le Seigneur soit béni. Voilà, je voudrais vous proposer d'introduire ce message par une lecture que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. On va lire ensemble les trois derniers versets de ce chapitre et de cet évangile. Matthieu 28, nous lisons à partir du verset 18, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ces paroles font partie des toutes dernières paroles que Jésus a laissées à ses disciples avant de monter au ciel, où il s'est assis à la droite de la majesté divine et où il intercède pour chacun d'entre nous. Et parmi ces paroles, je retiendrai ce matin pour nous, en particulier, cette recommandation « Faites de toutes les nations des disciples » en les baptisant au nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je suppose que oui, bien sûr, du jour de votre baptême, ce grand jour qui a marqué d'une manière décisive un changement dans votre existence. Je ne sais pas si vous et moi, ce jour-là, nous avions pris la mesure, la pleine mesure de ce qui était en train de se vivre, mais en relisant cette parole, j'ai été quand même interpellé par la dimension qu'elle revêt, baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai pris conscience d'une manière particulière du fait que le jour de mon baptême, le serviteur de Dieu a invoqué sur l'adolescent que j'étais le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et mes amis, ça, c'est beaucoup plus qu'une formule traditionnelle, c'est beaucoup plus que des mots, mais c'est une glorieuse réalité qui se produit dans la vie de celui ou de celle qui décide de marcher avec Jésus sur sa vie, sur son être, et d'une manière définitive est invoqué la Trinité divine. Il se produit un bouleversement de l'ordre des choses. Avant mon baptême, j'étais un pécheur perdu, addict à toutes sortes de vices, dans une servitude inexorable. J'étais perdu, gangréné de l'intérieur, désespéré, j'étais saisi de spasmes, de crises, de toutes sortes de mal-être. L'ennemi dominait dans ma vie, et un jour j'entends l'évangile, le Seigneur suscite la foi dans mon cœur, je comprends qu'il est le Sauveur, et qu'en donnant sa vie pour moi, il m'offre un plein salut. J'ouvre mon cœur, je me tourne vers lui, je décide que désormais, il sera mon Sauveur, mon Seigneur, ma vie, mon espérance, et d'une manière publique, je décide de prendre le baptême selon son enseignement. Et ce jour-là, mes amis, le nom de la Trinité est invoqué sur ma vie. L'ordre des choses est bouleversé, le péché est complètement défait, les prisons morales, spirituelles, psychologiques dans lesquelles j'étais enfermé s'ouvrent, je passe de la mort à la vie, alléluia, des ténèbres à son admirable lumière. Désormais, la Trinité divine prend en charge ma personne dans tous les aspects, ma vie. La responsabilité de mon présent et de mon devenir incombe désormais à la Trinité divine. Dieu, ce Dieu unique, l'Éternel, qui se révèle à nous sous l'aspect de trois entités divines, intimement complémentaires, unies, solidaires, mais possédant chacune des missions particulières, la Trinité de Dieu prend en charge ma vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es au bénéfice de toute l'attention de la Trinité divine. À partir du jour de ton baptême, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui ensemble te garantissent de leur vigilance, de leur fidélité, de leur assistance. Quel grand salut nous découvrons. Les êtres finis que nous sommes deviennent les bénéficiaires vers lesquels convergent toutes les vertus divines. Dieu va faire converger toutes ses capacités, elles sont à l'infini, vers un seul but, le bonheur, le salut et la marche victorieuse de chacun de ses enfants, que Dieu soit béni. Plus jamais tu n'es en droit de parler de solitude. Plus jamais tu n'as à nourrir ton âme d'herbes amères, déplorant l'incompréhension, la solitude, la frustration. Tu es le bénéficiaire par grâce de toutes les richesses de la Trinité divine, que Dieu soit béni. Ma grand-mère maternelle parlait très mal le français, elle le chantait aussi avec un fort accent du Caucase, mais son cantique préféré était celui-ci, « Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. » Elle chantait ce cantique avec sa voix vieillie et passablement éraillée, mais elle le chantait de tout son cœur, « Jamais tout seul, jamais tout seul. » Depuis le jour de mon baptême, la Trinité divine me garantit de toute sa vigilance, de son infinie compétence pour prendre la responsabilité de mon quotidien et pour me faire aboutir heureusement vers une arrivée glorieuse, alléluia, m'introduisant dans son ciel de gloire. Alors j'aimerais ce matin, frères et sœurs, parce qu'il faudrait on va avoir besoin de toute l'éternité pour vraiment explorer les richesses qui sont contenues dans la personne de Dieu, la Trinité divine. Mais j'aimerais relever, s'agissant du Père, trois perles que j'aimerais déposer sur votre cœur. S'agissant du Fils, trois perles que j'aimerais déposer sur votre cœur. Et s'agissant de Dieu, le Saint-Esprit, trois perles, trois vérités d'un prix inestimable que j'aimerais déposer sur votre cœur, afin que, encouragés par ces réalités, vous puissiez poursuivre avec beaucoup de force, de joie, de persévérance, votre marche dans ces temps si difficiles. Dieu le Père, Jésus est venu nous révéler le Père. Il dira, celui qui m'a vu, a vu le Père. Beaucoup de courants spirituels, épilogue sans fin sur le nom de Dieu et entre dans des démarches tortueuses. Mais moi, je constate une chose, c'est que quand Jésus est venu, il est venu nous révéler le Père. Le Père. Et entre autres, parlant du Père, Jésus dira, première perle que je vous rappelle, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Matthieu 6, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin. » C'est une réalité qui doit me préserver de l'inquiétude, des soucis, des questionnements stériles. À partir du moment où je suis convaincu que mon Père céleste sait d'avance de quoi j'ai besoin, mon âme est rassurée, mon âme est apaisée. Je sais que mon Père, qui sait quels sont mes besoins, sait aussi, déjà par avance, quel est le moment et quelles sont les manières qu'il va utiliser pour répondre à mes besoins. Est-ce que tout le monde est convaincu ce matin que son Père céleste sait de quoi il a besoin ? Il sait tes besoins. Il voit tes envies. Et souvent, il voit que nos envies ne sont pas forcément des besoins. C'est comme des parents avisés qui savent ce qui est utile pour la santé de leur enfant. Et lorsque leur enfant leur demande des paquets XXL de Smarties, ils savent que ce n'est peut-être pas non plus le plus urgent de les nourrir à force de glucose. On connaît les besoins en tant que parents avisés. Combien plus ton Père céleste sait de quoi tu as besoin. Que cela soit au plan matériel, si quelqu'un traverse une situation compliquée au plan pécuniaire, au plan matériel, au plan peut-être professionnel, alors rappelle-toi cette réalité. Ton Père sait de quoi tu as besoin. Et Jésus dira alors, ne vous inquiétez de rien. Ton besoin peut-être touche au domaine affectif, psychologique. Tu traverses un temps où intérieurement tu es ébranlé, tu es dangereusement perturbé, tu es fragilisé. Peut-être au plan matériel tout va bien, mais intérieurement il y a des symptômes inquiétants qui sont là et qui t'expose peut-être à une défaillance douloureuse. Eh bien, ton Père sait que tu as besoin d'encouragement. Ton Père sait que tu as besoin de retrouver une paix, une espérance. Ton Père connaît tes fragilités psychologiques, spirituelles, affectives. Et sachant toutes ces choses, il a dans ses mains de quoi y répondre et de quoi pourvoir merveilleusement. Que Dieu soit béni. Combien de fois, avec une exactitude parfaite, une ponctualité dont il a le secret, au bon moment, Dieu nous a envoyé la bonne parole, une parole venant de lui, nous a relevés, nous a restaurés, nous a encouragés, que Dieu soit béni. Un don spirituel lors d'un culte, le refrain d'un cantique inspiré pour ce jour-là. Peut-être en arrivant au culte, une parole d'une petite sœur, à son insu, elle est comme la bouche de Dieu. Elle nous apporte une parole, mais une parole qui touche en plein mille. Là où j'avais un besoin, Dieu répond, Dieu intervient. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alors ce qui me surprend, c'est qu'en même temps que Dieu, le Père, sait nos besoins, il nous encourage dans sa parole à lui faire connaître nos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et là, il y a une deuxième perle que j'aimerais placer sur votre cœur. Dieu le Père, en relation avec notre vie de prière. J'ai des besoins. Eh bien, j'ai un recours merveilleux qui est celui de la prière. Faites connaître vos besoins. Plusieurs fois, il m'est arrivé d'entendre des amis me dire pourquoi lui faire connaître des choses qu'il sait déjà. Il sait mes besoins. A-t-il besoin que je lui fasse connaître ? Oui, mais quand tu pries et lui présentes tes besoins, ce n'est pas dans le but de l'informer, parce qu'il le sait. Mais c'est dans le but de lui manifester la confiance et la foi que tu places en sa fidélité. La prière, la vie de prière, frères et sœurs, je souhaite tellement que vous et moi, nous puissions atteindre dans la vie de prière une dimension qui, jusqu'ici, certainement nous est restée inaccessible. Que ta vie de prière s'enrichisse, se développe, que tu fasses un peu le ménage, le tri parmi tous les facteurs dévoreurs de temps et que tu puisses dégager de l'espace et du temps pour te tenir devant le Père. De même que Jésus l'a enseigné, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Et alors il y a une énumération de sujets que nous portons à notre Père. La prière, la deuxième perle que je place sur votre cœur, recourez à la prière. Sans cesse, Jésus va leur donner une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. La prière, c'est le moteur qui va faire avancer la vie chrétienne. La prière, c'est l'arme de la lumière qui va faire tomber les Jéricho. La prière, c'est cette dynamique qui va enfoncer une pierre dans le front de Goliath. La prière, c'est ce cri de Josué qui dit « Soleil, arrête-toi, suspends ta course. » Et le soleil lui obéit. Quelle puissance il y a lorsque des êtres comme vous et moi, fragiles et limités, prient le Père. Tout ce que vous demanderez, va dire Jésus, à mon Père, en mon nom, je le ferai. Gloire à Dieu, je le ferai. Et ce « je le ferai », je prie pour qu'il vienne se planter dans un cœur ce matin, bannissant les doutes, les incertitudes, les atirroiements. Je le ferai. Et j'adresse une parole à quelqu'un ce matin, dans ton combat personnel, il le fera. Il le fera, il interviendra, il déploiera son bras fort, il dispensera sa bénédiction et tu verras encore sa gloire se manifester, que Dieu soit béni. Le Père en relation avec notre vie de prière. Et puis, une troisième perle, elle est basique mais essentielle. Jésus disait, le Père m'aime. Je crois pouvoir dire, de même que Jésus disait le Père m'aime, nous pouvons aussi dire le Père m'aime, parce que l'apôtre Jean va nous dire dans sa première lettre, chapitre 3, verset 1, « Voyez de quel amour le Père nous a aimés. » Il y a certainement besoin de rappeler à quelqu'un ce matin cette chose fondamentale, simple, mais essentielle. La réalité de l'amour du Père à son égard. Le Père t'aime. Mais alors là, mes amis, aborder ce sujet, c'est pour le vocabulaire humain, ce n'est pas possible. Comment vous voulez parler de l'amour de Dieu ? Où se trouvent les mots, les qualificatifs ? Si je vous dis l'amour de Dieu est grand, ben, c'est trop petit. Si je vous dis l'amour de Dieu, elle est merveilleux, mais c'est plus que merveilleux, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il faut y goûter. Il faut le vivre. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu ne peut pas se dépeindre par des mots humains. Ben, Dieu lui-même dira, hein, je t'aime d'un amour éternel. j'étais même pas conçu encore, j'étais pas conçu qu'il m'aimait déjà. C'est incroyable. Avant le 23 mars 55, il m'aimait déjà. C'est incroyable. Je t'aime d'un amour éternel. Je comprends quoi ? Je comprends par exemple que l'amour du Père n'est pas en fonction de qui je suis. Ou de ce que je fais. Il ne m'aime pas parce que je fais bien. Parce que dans ce cas, il m'aimerait moins si je fais mal. Il m'aime d'un amour éternel. Dieu est amour. Son amour est d'une pureté, d'une dimension qui nous donne le vertige. C'est un amour extraordinaire. Et je parlerai tout à l'heure du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, troisième personne de la Trinité divine. Eh bien, cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je prie que l'amour du Père, amour merveilleux, coule dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel, inconditionnel. L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances. L'amour de Dieu ne dépend pas de mon état. Je peux être en grande forme ou en méforme. L'amour de Dieu demeure le même. L'amour de Dieu ne dépend pas des dispositions de mon cœur. Parce que vous êtes bien comme moi. Il m'arrive de ne pas être aussi bien disposé que je le souhaiterais. Rassurez-moi, ça vous arrive aussi. On n'a pas toujours les dispositions au beau fixe. Intérieurement, on peut vivre des choses, des ressentis, des préoccupations, des soucis qui nous accaparent, qui font digression, et on n'est pas dans les meilleures dispositions, mais ça ne me remet pas en question le fait que le Père m'aime. Et pour citer à nouveau l'apôtre Jean, il nous dit « voyez ». On pourrait dire « fixez les yeux ». Voyez de quel amour le Père nous a aimés. L'amour de Dieu, pour passer à mon point suivant, l'amour de Dieu, j'ai envie de dire qu'il est bidirectionnel. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, par exemple. Dieu aime le monde entier, chaque être humain, sans exception. J'appellerai cet amour de Dieu l'amour de compassion. Quand de son trône, Dieu voit l'humanité avec toutes ses expressions d'insatisfaction, de violence, quand même, Dieu aime ce monde. D'un amour de compassion, l'amour de compassion. Il n'y a personne qui pourrait se persuader de ne pas avoir accès à la compassion de Dieu. On trouvera toujours à ses pieds un accueil compatissant, un accueil qui permet d'espérer un revirement salutaire, l'amour de compassion. Dieu aime le monde, il l'a prouvé en donnant son Fils unique, Jésus. Mais il y a une deuxième direction que j'aimerais mentionner. Non seulement l'amour de Dieu est un amour de compassion, mais pour ses enfants, il s'enrichit d'un amour de communion. Un amour de communion. Parce que si Dieu aime le monde, il n'est pas en communion avec le monde. Il n'approuve pas. Il aime parce qu'il est plein de compassion, mais il n'est pas en communion avec les philosophies, la manière de vivre. Par contre, pour ses enfants qui peuvent l'appeler père, il y a un amour de communion. Et je prie le Seigneur pour que ni les années, ni la routine, ni l'érosion que les événements de l'existence pourraient avoir sur ma vie ne viennent appauvrir cette dimension relationnelle avec mon Père céleste. La relation qui me permet de vivre, de ressentir, d'expérimenter les richesses de sa communion. Il y a un mot qui peut-être peut paraître un peu en décalage, et pourtant, quand on y réfléchit bien, il est vraiment scripturaire. La Bible nous parle de l'amitié de l'Éternel, l'amitié de Dieu. C'est jusque-là que son amour nous invite à aller. L'amitié de Dieu. Une relation privilégiée, une intimité. Vous savez, lorsque Dieu dit, par exemple, « Mais cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu de faire ?» Pas possible. Parce qu'Abraham, c'était l'ami de Dieu. Il y a des choses que Dieu va révéler si je viens plaquer mon oreille contre son cœur, dans une relation très proche, une intimité très proche. Eh bien, ce Père merveilleux nous invite à vivre notre foi dans cette dimension. Et puis, il y a Dieu le Fils. Jésus. Ce que je relèverais s'agissant de Jésus, c'est que premièrement, la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus. La grâce et la vérité. La grâce était une notion inaccessible à l'entendement religieux. Mais Jésus est venu nous révéler la grâce. Jadis, la société juive était façonnée par la loi de Moïse. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. D'ailleurs, pour inaugurer son ministère, il lira ce texte du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Et ce n'est pas une année de 365 jours, hein, c'est une ère. Nous y sommes encore pour quelque temps. Nous approchons de la fin, de l'échéance de cette ère de grâce. La notion de la grâce et la paix sont les deux souhaits que l'apôtre Paul invariablement souhaitait, formulait pour les églises auxquelles il écrivait ses épîtres. Que la grâce et la paix vous soient données, vous soient multipliées. La grâce et la paix, la grâce. Jésus est venu nous révéler la grâce. C'est la grâce du Sauveur. C'est la grâce du Sauveur. La grâce, sur un plan juridique, c'est une injustice. La justice voudrait que le coupable purge la peine, la sanction juste que méritent ses forfaits. Mais voici, parce que justement Dieu nous aime, il y a une forme d'injustice, mais en même temps, sa justice est satisfaite dans ce sens que le châtiment juste qui nous était réservé, eh bien c'est Jésus qui va le prendre sur lui. On a rappelé par ses emblèmes l'œuvre extraordinaire que Christ, sur la croix, a accompli. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est chargé de la sanction, du châtiment. Il a pris sur lui, comme le paratonnerre attire la foudre pour épargner les habitants, Le juste châtiment de Dieu est tombé sur Jésus, lui, parfaitement innocent, a pris notre culpabilité. Et le résultat, c'est que nous pouvons obtenir grâce maintenant. La grâce nous est gratuite, elle ne l'a pas été pour lui. Elle a représenté un prix qu'on n'évalue pas. Mais parce qu'il a accepté, lui, de payer cette rançon, eh bien, ce matin, nous pouvons jouir de sa grâce. Et je vous assure, une de mes prières instantes, c'est que jamais la grâce de Dieu ne s'éloigne de moi. Que ferais-je, que ferions-nous sans la grâce de Dieu ? C'est parce que Dieu exerce sa grâce en notre faveur, jour après jour, plusieurs fois par jour, du jour du baptême jusqu'à, on l'espère, au dernier souffle ici-bas. C'est parce que la grâce de Dieu nous accompagne. Elle est invoquée sur nous, elle intervient dans toutes les circonstances que nous avons à gérer. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est par sa grâce que nous sommes debout, même si vous êtes assis, on est quand même debout spirituellement. Et c'est par sa grâce qu'un jour, nous quitterons ce corps usé pour entrer dans le ciel de gloire et faire partie de la chorale céleste qui va célébrer le Seigneur. C'est par sa grâce, tout est par grâce. Amen. Je me souviendrai toujours de ce vieux prédicateur belge qui nous visitait, j'avais 18 ans, et il a commencé son message en disant « Vous avez devant vous un pécheur sauvé par grâce ». Ça m'a marqué ça, parce que c'est l'essentiel. Et parler de la grâce qui coule de Dieu le Fils, ce n'est pas peu de choses, parce qu'il est dit « Ma grâce te suffit. » Amen. Ma grâce te suffit. Que ça puisse venir s'incruster dans ton cœur ce matin. Point n'est besoin de chercher un complément en renfort de sa grâce. Sa grâce est suffisante. S'il y a sur ta vie la grâce de Dieu, elle te garantit de l'issue victorieuse de toute situation. Alléluia ! La grâce de Dieu, c'est une source de victoire, de salut, d'espérance. Il est venu nous révéler la grâce. Et lorsque le jour de ton baptême, on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Dieu a été invoquée sur toi, pour ne plus jamais s'en départir, même si parfois, nous, il nous est arrivé d'avoir des dérapages plus ou moins contrôlés, parfois pas contrôlés du tout, mais la grâce de Dieu a continué son œuvre. Et on a vu comme cela, et nos églises sont pleines de témoignages semblables, on a vu comme cela des bien-aimés revenir dans les voies du salut après des années d'éloignement, des années de tâtonnement et d'abandon de la foi. Mais la grâce de Dieu n'est pas circonstancielle, elle demeure, elle est suffisante et un jour, ils reviennent au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni et qu'il en soit encore ainsi pour beaucoup de personnes. Le Fils, Dieu le Fils, nous révèle la grâce. La Bible me dit, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Il a la vie. Bien plus qu'un rituel religieux, bien plus qu'une charte faite de règles et de préceptes, il y a la vie. Je prie le Seigneur pour que la vie de Christ nous habite et que nous en soyons renouvelés constamment, constamment. Amen. Je suis venu pour que mes brebis, elles aient la vie en abondance. Alléluia. Oh, je prie pour que cette vie du Christ en nous et au sein de son Église, elle puisse se manifester de plus en plus d'une manière luxuriante, avec des manifestations de dons spirituels, de paroles inspirées, de cantiques qui vont amener des visitations du Saint-Esprit. Je prie pour que nos cultes puissent aller de dimanche, en s'élevant en qualité. Qui va dire amen à ça? Il y en avait quatre. Non, un peu plus. C'est là la volonté de Dieu. Avoir Christ en soi, ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas adopter une identité religieuse, mais c'est avoir la vie en soi. Alléluia. Et cette vie, mes amis, elle va engendrer des fruits. Mais c'est tellement évident, c'est spontané. Si tu es rempli de la vie de Christ, tu vas produire les fruits de Christ. Ça va se manifester par une joie, par un vocabulaire qui est porteur d'espérance, par des attitudes. Tu vas manifester généreusement le pardon à ceux qui t'offensent. Tu vas manifester avec joie des actions, des comportements. Tu vas être imprégné de Christ. Il est ma vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et puis, troisième perle concernant Dieu le Fils, j'aimerais mentionner cet aspect des choses. Quand même, il y a clairement une relation de maître à disciple. Maître à disciple. Parler du Fils, parler de Jésus, forcément, va nous donner de comprendre que nous sommes appelés à être ses disciples. Disciple, disciple, c'est un mot qui est très fort. Quand quelqu'un décide d'être le disciple d'un maître, c'est exclusif. Son maître, alors il y a de mauvais maîtres, mais par définition, son maître va devenir sa référence unique. Il va susciter dans le disciple une motivation, je dirais, passionnelle pour tendre à se conformer à son maître. Ça, c'est la définition généraliste du disciple. Elle s'applique aussi et surtout lorsque nous parlons d'être disciple de Jésus. Le Seigneur dira: le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli. Une autre traduction dit tout disciple bien formé, sera comme son maître. Et je prie pour que dans le cœur de chacun brûle cette sainte aspiration d'être comme Jésus. Amen. De ressembler à Jésus. Te ressembler, Seigneur. C'est un vieux cantique, hein. Parler, agir, penser, tout comme toi, c'est quelque chose qui doit nous porter de l'intérieur. Ressembler à Jésus. Se conformer à Jésus. Tendre à tout faire pour lui plaire. Un disciple cherchera à plaire à son maître. Le disciple ne s'accomplira pas dans la réalisation de ses propres projets. Il s'accomplira pleinement lorsqu'il constatera que son maître est fier de lui. Moi, je prie pour que mon maître divin soit fier de moi. Qu'il puisse affirmer, attester l'approbation son approbation sur ma vie. Certains chercheront à plaire aux hommes. Le disciple de Jésus cherchera à plaire à son maître. Gloire à Dieu. Et je le répète, c'est exclusif. Un pasteur disait, lorsque Dieu me regarde, il veut voir Jésus. Alors, on n'y est pas encore, mais j'espère qu'on est en route pour tendre à ressembler un peu plus chaque jour. Et que, à l'école de Dieu, dans l'éducation qu'il nous prodigue, nous nous laissions débarrasser de tout le reliquat de l'ancienne nature, les jalousies ridicules, l'esprit de compétition, comme cela se produisait chez les disciples, chez eux c'était terrible, chez nous ça va mieux, mais au fait, qui est le plus grand parmi nous? Et Pierre disait, c'est moi le plus grand. Et Jean disait, non, je crois que c'est moi, parce qu'il m'aime. Et puis chacun, qui est le plus grand parmi nous? Écoutez, frères et sœurs, est-ce qu'on se pose encore la question de savoir qui est le plus grand parmi nous? Moi, j'ai la réponse. Parmi nous, le plus grand, c'est Jésus. Amen. Et vous et moi, nous sommes finalement sur un plan d'égalité. Comme je l'ai dit, nous sommes des pécheurs et des pécheresses sauvés par grâce. Alléluia. Ayant une sainte et inaltérable aspiration à lui ressembler. À lui ressembler. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça correspond aux disciples, aux vrais disciples. Vous savez, il y avait autour de Jésus souvent des foules très nombreuses. Mais dans certaines circonstances, ses disciples sont sortis de la foule pour se mettre à ses pieds. Il y a une démarcation. Ses disciples. Il va prendre ses disciples à part, pour les avoir avec lui, nous dit l'Évangile. Et quand ses disciples vont commencer à témoigner, à annoncer l'Évangile, la Bible nous dit, on les a reconnus, non pas à leur badge ou à leur carte de membre, on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Jésus était monté au ciel, il n'était plus physiquement là, mais l'empreinte de Jésus était profondément incrustée sur ces personnes. Le disciple fera tout pour ressembler à son maître. Et puis, il y a Dieu, le Saint-Esprit. Quelle grâce! Le jour de ton baptême, on a invoqué sur toi le nom de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pris en charge tous les aspects de ta marche chrétienne sur terre. Le Saint-Esprit. Et là, j'aimerais mentionner, avant de terminer, trois perles. Le Paraclète qui nous édifie. L'Esprit de Dieu qui nous transforme de gloire en gloire, et l'agent divin de puissance répandu sur le croyant. Trois vérités que je vous laisse sur votre cœur. Il est le consolateur, en grec le paraclète. Le paraclète qui est envoyé afin de remplir une mission à l'intérieur du croyant que l'on peut synthétiser sous le terme d'édifier, l'édification. Mais cette mission d'édification à l'intérieur, elle a de multiples aspects. Parce que, bon, premièrement, il faut bien reconnaître que le jour de ton baptême, quand tu es sorti de l'eau du baptistère, tu étais un bébé spirituel en début de chantier. Oui ou non? En fait, ce jour-là, tu es entré dans un processus de construction intérieure. Le Dieu qui t'a suscité la foi allait désormais s'employer à construire, à édifier ta foi, à l'augmenter, à l'enrichir et à la compléter de tous les éléments qui lui manquaient au commencement. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous serons toujours approuvés de Dieu si nous cherchons l'édification. Amen. Il y en a un, c'est le destructeur. Mais il est vaincu par un autre qui est le constructeur. Et le Saint-Esprit va travailler à édifier ta foi. Le Saint-Esprit va travailler à ajouter à ta foi les qualités, les vertus, les ingrédients spirituels nécessaires afin que ta foi soit une foi en bonne santé, que ta foi soit une foi éclairée, une foi authentique, qu'elle ne soit pas une carapace extérieure vide de substance. Le Saint-Esprit va éclairer ta foi, enrichir ta foi. Il va te donner d'acquérir peu à peu la maturité de la foi. Ta foi du début, si influençable par tes émotions, va apprendre à prendre de la hauteur par rapport aux émotions et à confesser les promesses de Dieu. Alléluia! Le Saint-Esprit va travailler dans ce sens-là, à édifier ta foi, à la renforcer. Combien de textes nous parlent de l'homme intérieur ? Paul reconnaît que l'homme extérieur se détruit de jour en jour. Il n'y a qu'à me voir. Hein. Mais il s'empresse d'ajouter, alors que l'homme extérieur se détruit de jour en jour, l'homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Il y a cette mission que le Saint-Esprit veut remplir en chacun d'entre nous, c'est de renouveler l'homme intérieur, renouveler l'homme intérieur. Alléluia! Et même si tes articulations prennent un petit peu de déformation, même si ton souffle est devenu court, même si ton rythme cardiaque te limite physiquement, même si l'évidence des années est là, même s'il y a ces contingences, eh bien, il y a surtout l'œuvre du Saint-Esprit au fond de toi qui va renouveler ton homme intérieur. Alléluia! Et qui va faire que si ton épiderme est ridé, ton âme, elle, sera toujours dans une vigueur spirituelle, une tonicité, un zèle, une capacité même de communiquer un encouragement autour de toi. Combien de fois, frères et sœurs, j'ai été encouragé par des bien-aimés qui, visiblement, étaient pourtant dans un grand état de faiblesse, mais ils étaient en même temps les canaux divin pour encourager mon âme vacillante et ma foi agitée. Que le Seigneur fasse en nous cette œuvre d'édification. Il construit, il fortifie, et j'ai envie de dire aussi, il répare. Partout où il discerne besoin de réparation, une fissure, un domaine intime en souffrance, des bleus au cœur, quelqu'un disait. Est-ce que quelqu'un a des bleus au cœur ? Eh bien, le Saint-Esprit est venu pour réparer. N'est-il pas parlant de lire dans l'enseignement de l'apôtre Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. En loignant d'huile. Et vous le savez, l'huile est un des symboles principaux du Saint-Esprit. Si quelqu'un est malade, en grec, c'est le mot asthénie, c'est-à-dire absence totale de force. J'ai plus rien. Parce que bon, à Marseille, quand on dit de quelqu'un, oh, il est malade, faut pas se fier au vocabulaire local, hein, quelquefois. Hein. Un jour, je prenais des nouvelles d'un chrétien et on m'a dit, il est malade. Mais il était en train de mourir, le gars. Ça dépend ce qu'on met dans les mots. Et quand Jacques écrit, si quelqu'un est malade, il est en train de dire, si quelqu'un est au bout de ses énergies, s'il est vraiment à l'extrémité, il est prêt de défaillir et il est prêt d'y rester, alors il y a l'huile. Il y a l'huile. Je ne parle pas de l'huile palpable, mais je parle du symbole qui nous parle de Dieu, le Saint-Esprit. Je prie pour que le Saint-Esprit visite quelqu'un ce matin. Et opère une œuvre de guérison intérieure. Que cette cicatrice qui tarde à se fermer soit parfaitement désinfectée, aseptisée, et que tu sois guéri de ta blessure. Que ta souffrance cesse. Et je crois que ce dimanche peut être pour quelqu'un le rendez-vous de la guérison par l'action du Saint-Esprit. Combien d'années il est resté prostré, en souffrance, figé dans des considérations funestes, Jacob. Et puis, la Bible nous dit que en voyant la démonstration que ses fils lui font défiler devant les yeux, le cœur de Jacob se réchauffa. Ouais. Qu'un cœur se réchauffe ce matin. Amen. Le cœur de Jacob se réchauffa et il s'est tellement réchauffé qu'à un moment donné, Jacob de lui-même a dit « C'est assez, je me lèverai, mon fils est vivant ». Et j'irai le voir. Et bien que ce dimanche, 18 janvier 2026, quelqu'un dit c'est assez. Je ne veux plus être ce chrétien souffreteux, cette chrétienne toujours affectée, fragilisée, avec des souvenirs douloureux qui reviennent trop facilement en mémoire. Que quelqu'un puisse dire ce matin, c'est assez. Pourquoi ? Parce que depuis le jour de mon baptême, le nom de la Trinité divine est invoqué sur ma personne. Et dans cette Trinité divine, il y a Dieu, le Saint-Esprit, qui m'a été envoyé, qui vit en moi et qui œuvre en moi. Et dans son œuvre, il y a la guérison de mon âme, la disparition définitive de mes points fragiles et endoloris. Que le Seigneur soit béni. Deuxième perle que j'aimerais mentionner s'agissant du Saint-Esprit. C'est ce merveilleux texte. Je vais vous le lire parce qu'il est tellement beau. Je ne voudrais pas altérer sa teneur. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, écoutez bien, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le paraclète qui nous édifie, nous guérit, nous renforce, nous restaure, travaille aussi à nous transformer, pas d'un coup, mais de gloire en gloire. Et je parlerai ici de cette action tellement merveilleuse qui rencontre aussi tellement de résistance chez nous. Lorsque le Saint-Esprit travaille à nous transformer, on n'aime pas ça. Vous aimez, vous, qu'on vous impose de changer? Moi, j'aime. Naturellement, j'aime pas. Je me trouve dans une sorte de confort et Ça me dérange quand on me fait comprendre qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent. Et pourtant, dans ma vie comme dans la tienne, il y a des choses qui doivent changer. Et ce n'est pas un moralisateur avec ses préceptes qui fera ce travail, mais c'est le Saint-Esprit. Il nous transforme. Je parlerai ici de la sanctification et aussi de la croissance spirituelle du croyant. Il nous transforme. Il y a quelques domaines que j'aimerais mentionner, notamment deux, celui du caractère, de notre caractère, et celui de notre intelligence. Le Saint-Esprit veut travailler au moins dans ces deux dimensions. Transformer ton caractère. Ouh, je parlais d'être dérangé tout à l'heure. Ça dérange. Pourtant, c'est indispensable. C'est indispensable. Parmi les choses affligeantes qui peuvent exister dans les constats qu'un pasteur peut faire, il y a cette observation que tel ou tel n'a pas changé. Il ne faut pas changer. Alors, il y a des bonnes choses, il ne faut pas que ça change, mais dans tous les domaines où il y a des choses à éliminer, quelle tristesse de constater que l'on peut écouter les prédications chaque dimanche et depuis des décennies, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Mais ça, ce n'est pas pour Aubagne. Parce qu'à Aubagne, ça change. Je prie en tout cas le Seigneur pour que sa parole, dans les mains du Saint-Esprit, le divin sculpteur, soit comme un ciseau à pierre pour façonner, transformer, changer notre caractère, j'allais dire notre personnalité. Il ne nous dépersonnalise pas, le Seigneur, mais il change notre caractère au bénéfice du caractère de Jésus. Amen. Vous et moi, nous sommes encore des œuvres inachevées, mais en voie de transformation. Amen. Au début d'une année d'études, dans un institut biblique, le directeur est venu pour faire connaissance avec la nouvelle session d'étudiants. Voilà, ils étaient jeunes, ils avaient de tous les calibres. Et il leur dit cette phrase: « En promenant mes regards sur vous, je vois les hommes de Dieu et les servantes de Christ que vous êtes en devenir. » Waouh! En portant ses regards sur toi et sur moi, ouais, sur moi aussi, Dieu voit déjà l'œuvre achevée. Et il y travaille. Il transforme. De gloire en gloire, pas d'un coup, mais de gloire en gloire. Et dis-toi bien que la plupart des circonstances qui te touchent, la plupart des défis qui s'érigent sur ton chemin sont les moyens éducatifs. C'est le travail du sculpteur divin. Il va sculpter ton caractère afin de le rendre parfaitement conforme à celui du Seigneur Jésus. Amen. Ça va? Vous acceptez? Quelques coups de bim. Si je m'offre et je m'expose à l'œuvre experte de ce divin sculpteur, le résultat va être à la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Et puis, il sculpte et transforme notre caractère. Il transforme aussi notre intelligence. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce point, mais quand même, notre intelligence a besoin tellement d'être éclairés par le Seigneur afin que nos modes de pensée, nos logiques que nous pensons irréfutables se laissent modifier. Que nous entendions le Seigneur dire ce qu'il a dit à ses disciples. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Parce que je vais vous dire une chose, souvent, en tout cas trop souvent, nous pensons mal. Et si tu penses mal, ben tu vis mal. Dis-moi comment tu penses et je te dis comment tu vis. Le domaine de nos pensées est certainement un des terrains privilégiés où le Saint-Esprit, par l'éclairage qu'il va nous apporter, va nous donner de penser comme Dieu pense. Alléluia! Parce qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées du Seigneur sont élevées par rapport aux nôtres. Nous pensons bas, nous pensons petits, nous pensons souvent faux. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous transforme dans notre mode de pensée, que nous puissions penser comme Jésus pense. Comme le Seigneur pense. Alléluia. La Bible nous dit, nous qui sommes spirituels, nous avons la pensée de Christ. Amen. Nous avons la pensée de Christ. Donc, nous avons permis au Saint-Esprit de faire en nous son œuvre qui établit et instaure en nous la pensée de Christ, qui est toujours une pensée de victoire, de bénédiction. Alléluia. Alors, bannissons les pensées humaines qui viennent du cartésien, de la logique d'être fini que nous sommes, et laissons la pensée de Christ s'instaurer en nous. Ah, si tu penses la pensée de Dieu, alors tu vis bien. Tu entres pleinement dans la victoire du Seigneur. Je terminerai, s'agissant de Dieu, le Saint-Esprit, troisième perle que je vous propose, il est l'agent divin de la puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et en vous rappelant ces choses que vous savez déjà, je veux, pour ma part personnelle, me redire le caractère impérieux que la puissance de Dieu repose sur moi. Car s'il en était autrement, comment prétendre à maîtriser, à gérer, à triompher la puissance de Dieu ? Ton Dieu ordonne que tu sois souffreteux. C'est ça ? Que tu sois puissant. Alors écoute bien, ton Dieu, ce matin, t'ordonne que tu sois puissant. Et comme l'a dit quelqu'un, ce que Dieu ordonne, il le donne. Et il le donne par le glorieux ministère du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ainsi revêtu des capacités surnaturelles qui proviennent du Saint-Esprit dans ta vie, que tu vas maintenant t'avancer et gérer tes défis. Il y a une autorité qui va se communiquer à toi. Vous savez, bénissons Dieu d'avoir expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. L'expérience de la Pentecôte a toujours fait la différence dans l'histoire de l'Église. Ça transforme et ça transcende les prières du croyant. Prier avec l'onction du Saint-Esprit, c'est tellement différent. Ça transforme le témoignage du croyant. La Bible nous dit, il rendait avec beaucoup de force témoignage de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le chrétien, dans sa génération, ne parlera pas des choses de la foi comme d'une thématique à débattre, mais il rendra avec force, comme cet ancien aveugle qui va dire, écoutez, moi je ne sais pas vos tortuosités théologiques là, mais je sais une chose moi, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ouf, quelle force! Qu'est-ce qu'on peut dire devant ça? Qu'est-ce qu'on peut rétorquer? Il n'était pas un théoricien, mais il était un homme qui rendait témoignage avec clarté, avec force, de son état initial, de son état présent, suite à un miracle et à une intervention du Seigneur Jésus. Et nous aspirons à être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Oui ou non? Et je prie pour que... C'est loin d'être un luxe, vous savez. C'est loin d'être optionnel, parce que les courants qui se manifestent de jour en jour plus violemment dans notre pauvre France, qui est à un pas d'un effondrement fatal, le seul espoir que l'on peut envisager pour notre pays de France, c'est Jésus-Christ. Le seul peuple qui peut être utile et secourable pour la société française, c'est l'Église de Jésus-Christ, remplie de la parole de Dieu, remplie du Saint-Esprit, revêtue des capacités d'en haut et rendant témoignage avec beaucoup de liberté et d'assurance. Et Dieu va approuver ce message et des multitudes peuvent se convertir. Vous savez, on s'aperçoit d'un phénomène tout récent là, il est en train de se produire, c'est que les lieux religieux qui étaient désertés toutes ces dernières décennies se remplissent. Parce qu'il y a le constat évident que même les incroyants ou les prétendus incroyants font que nous sommes en train de vivre des heures, peut-être même des minutes ultimes, décisives. Moi, quand je lis sous la plume de l'apôtre Paul, il est temps de vous réveiller enfin du sommeil de la mort. Ben moi, il est grand temps, frères et sœurs, que vous et moi, nous puissions expérimenter un réveil spirituel, une puissante effusion du Saint-Esprit, et que nous puissions finalement nous défaire de toutes ces futilités qui nous envahissent pour nous consacrer de toutes nos énergies vers l'urgence suprême, c'est de témoigner avec force qu'en Jésus seul, il y a l'espoir, l'espérance, le salut, et qu'en aucun autre, le monde ne trouvera de solution. Que le Seigneur nous aide à être remplis de puissance. Amen. Qui veut être un chrétien puissant? Alors sache-le, ce n'est pas en toi que tu puiseras cette puissance, mais tu la recevras d'en haut. Il vient du ciel, il vient d'en haut, alléluia. L'effusion du Saint-Esprit. J'ai presque envie même de dire que plus tu as conscience de ta faiblesse, et plus tu es dans les bonnes conditions pour que sa puissance repose sur toi. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît, et invoquer le Seigneur sur un plan personnel, certes, mais aussi dans une dimension ecclésiale, communautaire, que notre Église à Aubagne connaisse quelque chose de merveilleux, une effusion du Saint-Esprit, alléluia. Et n'oublie jamais que depuis ton baptême, le nom de la Trinité divine est invoqué sur toi.